m'adresse deux problèmes très intéressants avant la fin des cours, puisque maintenant on touche bientôt avec la Pentecôte. La Pentecôte est comme un terme d'une certaine manière à l'année monastique, et ça continue un peu les études. Le point de vue de l'individuation, j'en avais dit un petit mot la dernière fois, mais c'est déjà vieux, alors on reprend, et le point de vue de la subsistance. L'individuation, je le prends en premier lieu, parce que, en premier lieu, c'est un problème qui, au point de vue philosophique, est particulièrement aigu quand on comprend que notre intelligence, dans son mouvement naturel, découvre l'universel. Notre intelligence débridée, sans qu'on fasse grande attention, découvre l'universel. Vous ne pouvez pas vous rappeler le premier moment où vous avez distingué papa et homme. C'est quand même un moment très intéressant. Papa, c'est singulier. L'enfant, c'est bien, papa. Papa, maman. Et puis, il est arrivé à discerner que papa n'était pas tous les hommes, qu'il y avait une différence entre homme, l'abstrait, l'universel, Pierre, Jean, Jacques, et puis papa. Papa, c'est l'individu. Il est unique, papa. On a d'abord connu le singulier. C'est la première connaissance, génétiquement. Parce que c'est l'expérience. Papa, c'était l'expérience par moment. Par moment, on a connu papa. Maman, personne ne l'a fait connaître. C'est la chose très particulière. Sauf aujourd'hui, comme me disait Mgr Gilson, entre la connaissance de maman, qui d'avant était vraiment la source, et à la télévision, qui fait qu'il y a un abîme entre maman et le début de la connaissance. Alors qu'au début, avant, c'est vrai, quand vous voyez en Afrique une famille où il n'y a pas de télévision, ça devient rare, n'est-ce pas? Une vraie famille où la source de connaissance est la mère avec l'enfant et puis papa. Tandis que c'est fourré chez nous, entre deux, la télévision. Et elle est très, très agréable, la télévision. Parce que maman, c'est vite connu. Tandis que la télévision, ça change tout le temps. C'est ça qui est agréable. Mais il y a un problème foncier qui est justement cette connaissance de l'individu. Et à partir de l'individu, on a connu l'universel. Et on ne peut pas rester dans l'universel, sauf si on commence à dialoguer et à perdre contact avec l'individu. Et on peut dialoguer indéfiniment au point de vue de l'universel. C'est l'immense avantage de l'universel. C'est qu'il ne vous répond jamais directement. Tandis que l'individu vous répond directement. Il y a là quelque chose d'extraordinairement important. Sartre réfléchit sur ce début de sa vie. Il dit des choses intéressantes, parce qu'il n'était pas bête. Mais au fond, l'individu, on le laisse de côté. Alors que l'individu, c'est ce qu'il y a de premier. Papa, maman. Alors qu'est-ce que c'est? Le philosophe doit réfléchir sur ce début de ma connaissance où il y a eu l'abstraction. Je ne sais pas, vous pouvez vous rappeler, je ne crois pas vous en rappeler, le premier moment où votre connaissance a touché l'universel. C'est un grand événement. Un grand événement. On est passé de l'individu, papa, à homme. Et après, animal. Ça s'est fait un peu plus rapidement. Parce qu'une fois qu'on commence universel, on s'y perd. Et on peut aller toujours plus loin. Homme implique animal, raisonnable. Tiens. L'individu, il est un, mais homme, il est deux. Curieux. L'universel, tout de suite, est multiple. Non, cinq modalités universelles. Et ces cinq modalités universelles, on commence par jongler avec, parce que l'avantage de l'universel, c'est qu'il n'est pas méchant. Tandis que l'individu, il peut être méchant. Il peut donner des claques. Tandis que vous n'avez jamais reçu de claques de l'universel. C'est un être de raison. Il est donc très civilisé. L'universel est très civilisé, c'est un être de raison. Il y a cinq modalités. C'est très curieux, tout cela. Mais ça joue beaucoup. Forcément, parce que c'est le point de départ. Et ce point de départ, il est inconscient. Vous avez commencé à parler. Vous avez atteint l'universel par la parole. C'est la parole qui vous a permis d'atteindre l'universel. Dans une culture, on est quand même des gens qui sont nés dans une certaine culture. Même si la culture baisse, elle existe encore. Et on a commencé à connaître l'universel par la parole, parce que la parole est universelle. C'est très curieux, du reste, parce que l'universel, il est d'abord pour nous, par la parole, donc par un autre qui nous a parlé. Un autre qui nous a indiqué ce que c'était la réalité. Tandis que l'individu, le dialogue est direct. Individu et universel, hein? L'individu est unique, universel est cinq. Tout de suite, à l'intérieur de l'universel. L'universel s'est multiplié, s'est divisé, et il y en a cinq modalités universelles. Et quand vous restez dans ces cinq modalités universelles, vous êtes en logique. Vous êtes chez vous. Parce que c'est l'homme qui l'a fait. Et donc, on est chez soi. Et on continue de raisonner sur soi-même. Le genre, différence spécifique, espèce, propriété, accident. Et ça, c'est vrai pour toutes les cultures et les civilisations. C'est vrai pour un Américain et c'est vrai pour un Européen. C'est curieux. Ils devraient s'entendre, puisque vis-à-vis du point de départ, c'est le même. C'est l'homme. L'homme raisonnable. L'homme capable de rire. l'homme qui s'encombre de quantité d'accidents et qui choisit quelquefois des choses très secondaires pour être le principal pour lui. C'est très curieux cela. Et c'est important de comprendre que nous avons tous connu l'individu avant l'universel. Et une fois qu'on a connu l'universel, on l'a aimé parce qu'il n'est pas dangereux. Il vient de nous. Donc on se retrouve dans l'universel. Et l'universel a capté notre intelligence. Notre intelligence a été saisie par l'universel. Et grâce à l'universel, on a pu avoir une intelligence scientifique. C'est l'universel qui est à la racine du développement scientifique en nous. Et ce développement scientifique a séduit terriblement notre intelligence. Ce développement scientifique par les mathématiques. C'est le premier, génétiquement, c'est le premier qui nous a séduits et qui nous séduit et qui continue de séduire et qui séduit actuellement d'une façon très particulière la formation. Puisque en France, on veut la formation mathématique la première pour qu'il y ait quelque chose de solide et de sérieux. Bon, le sérieux vient de la connaissance scientifique. Parce que c'est toujours très sérieux l'universel. Le rire vient de l'individu. Vous n'avez jamais vu l'universel rire. On dit la vache qui rit. Mais l'universel ne rit pas. Il est très sérieux, il se développe en science. Et la science engendre la science. Et le nombre des sciences, je l'ai su, on me l'a dit, mais j'ai complètement oublié, le nombre des sciences, on m'a même dit que tous les jours naissait une nouvelle science. C'est possible, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est très possible. Il y a comme une espèce de multiplication constante de l'universel. C'est important de comprendre génétiquement comment la science naît, comment naît la science mathématique, parce que c'est la plus connaturelle à l'esprit humain. C'est pour ça qu'elle a tant de succès. C'est la plus connaturelle. Et c'est là où la certitude est la plus forte pour nous. Et c'est pour ça qu'il y a une emprise des mathématiques sur l'esprit humain qui est très forte. Un jeune qui commence ses études est nécessairement séduit par le point de vue des mathématiques. Il est quelquefois en révolte. On m'avait dit la mère du père Braun. Non, pas la mère, la sœur du père Braun. M'a raconté une histoire, c'était très, très curieuse. La révolte de son fils à la première leçon mathématique. Et elle avait gardé ça intact, et se demandant ce que ça signifiait. Le professeur, ce petit gosse, est rentré furieux à la maison, en disant, « Maman, professeur de mathématiques, c'est un imbécile. » Il dit, « 1 et 1, 2. » Or, « 1 et 1, 1. » Sa mère avait gardé ça en disant « Sûrement que ça doit être très intelligent. » Et il doit y avoir une opposition affective très forte entre mon petit et le professeur de mathématiques. Alors elle était voir le professeur de mathématiques. Et le professeur de mathématiques a dit tout de suite à la mère, « Mais votre garçon, il est imbécile. » La mère a tout de suite compris qu'il y avait effectivement une espèce d'opposition violente entre les deux. Et c'est vrai que 1 et 1, 1, 1 et 1, 2. Et la mère a voulu lui faire comprendre ça quand il a pris son bain et lui a envoyé une balle, puis une autre balle. Elle a dit, ça fait 2 balles. Ah oui, maman, tu as dit 1 balle, tu n'as pas dit 1. Tu as dit 1 balle. Et alors, 1 balle plus 1 balle, ça fait 2 balles, oui, oui, ça je suis d'accord. Mais professeur de mathématiques, il n'a pas dit ça, il a dit 1 et 1, 2. Et 1, pas 2, 1 et 1, 1. C'est très, très amusant de voir ça dans la tête d'un petit bonhomme et de voir un professeur de mathématiques en face de ça. Et ça dénote quelque chose, l'individuation. Oh. L'individuation permet le multiple. 1 balle plus 1 balle, 2 balles. Quand on est individué, on est un qui peut s'additionner à un autre un. 1 balle plus 1 balle, ça fait 2 balles. C'est grâce à l'individuation, ça. Tandis que quand vous dites un, t'es pas individué, un. Alors, 1 et 1, 1. Vous voyez, cette différence entre le regard de l'expérience, des réalités physiques, 1 balle, c'est pas 1, c'est 1 balle, plus 1 autre balle, 2. L'individuation permet la multiplication. La multiplication se fait grâce à l'individu. L'individu, c'est la substance qui informe une matière. Et en informant cette matière, la substance se manifeste. Elle est visible. C'est très curieux que l'individuation va être comme la visibilité de l'être, de ce qui est. Ce qui est rendu visible par son individuation. Et parce qu'il est rendu visible par l'individuation, il peut se multiplier. Il peut s'additionner. L'addition. Qu'est-ce qui est au cœur de l'addition? L'individu. Plus un individu. Si vous êtes au-delà d'individuation, il n'y a pas de multiplication. C'est 1 et 1 et 1. Prenez tout de suite le point de départ de la multiplication. Vous comptez. Comment se fait-il que vous pouvez compter le nombre d'individus par an? C'est parce que vous êtes individué et que vous avez votre corps. Il n'y aurait que votre âme. Vous ne pourriez pas individuer. Vous n'auriez pas additionné. Vous n'auriez que votre substance. Vous n'auriez pas additionné. La substance, elle est principe. un principe ne s'additionne pas à un autre principe. Pourquoi ? Un principe ne s'additionne pas à un autre principe. Et donc le gosse, quand il disait 1 et 1, 1, c'était pas si bête. C'est qu'au fond, il avait atteint quelque chose de très profond. Et si on n'arrive pas à atteindre ce dépassement de la quantité, pour atteindre ce qu'on est au point de vue être, on n'additionne pas. On ne peut pas additionner. On n'additionne pas les âmes. Elles sont toutes individuelles, personnelles. Il y a un problème très curieux, ce sera de regarder l'individu, la personne. Mais regardons d'abord l'individu, parce qu'il est premier, ça. Avant d'être une personne, on est un individu. Un petit enfant qui vient de naître est un individu. Vous ne lui dites pas, oh, quelle jolie personne. Non, c'est un petit individu. Et il est individué dans tout son être. Dans ses petites doigts de pied, il est individué. Il est unique. L'individu, c'est d'être unique. Et donc, c'est séparé de tous les autres. Et d'être soi-même. Qu'est-ce qui permet ça ? C'est la substance. La substance ou la nature. Puisque le problème se pose, savoir si une vache a une substance ou une nature seulement. On ne va pas trop s'attarder à ça, mais c'est intéressant. Et l'individu fait le lien entre les deux. La vache. Elle a une nature, ça c'est sûr. Et cette vache, elle a une nature très individuée. La vache normande n'est pas la vache bretonne. Bien qu'elle ne soit pas marquée à la mairie, elle est quand même son individuation. Et le fermier, il sait bien. Il lui a donné un petit nom particulier. Cocotte. Et c'est bien. Elle est individuée. Et dans le troupeau des brebis, chaque brebis est individuée. C'est sa nature. La vache n'a pas de substance propre, au sens rigoureux, puisque elle est liée au devenir. Elle n'existe pas en dehors du devenir, elle existe dans le devenir, ce qui montre bien que c'est la nature, ça. Puisque le propre de la nature, c'est d'exister dans le devenir. La nature est principe du mouvement. La nature principe du mouvement naturel. Et en tant que, justement, nature, elle a son individuation. Et le petit enfant, lui a une substance, une âme. Il est aussi individué. Il y a quelque chose de commun entre le petit enfant qui vient de naître, qui est parfaitement individué, et la petite vache qui vient de naître. Tous les deux sont individués. Donc l'individu est au-dessus de la distinction nature-substance. C'est quand même très curieux, ça. Et c'est quelque chose qui existe au niveau de la nature comme au niveau de la substance. Donc, si l'individu est le même, du moins, a les mêmes caractères du côté de la nature et du côté de la substance, sera l'individu qui facilement prendra le dessus. Dessus commune à la pute, au petit veau, commune au petit enfant. Et leur nature et leur individu se développera d'une façon différente. La vache, le petit veau, il devient une vache. Le petit enfant, il devient un petit enfant. Et à un moment donné, la nature explique tout pour la vache. Et la nature n'explique pas tout pour le développement de l'enfant. Il y a un moment où le développement de l'enfant n'est plus naturel, mais devient personnel. Ça, c'est très important. Et vous voyez, je ne suis plus alors en face du problème de l'individuation. Je serai alors en face du problème de la subsistance. Et là, c'est très important de bien distinguer les deux. De bien distinguer ce développement de l'individu naturel et chez le petit veau, ça se fait très semblablement à un autre petit veau. Et puis un petit arrêt, puisque ce veau attrape une maladie, il ne se développe plus de la même façon. Et quelquefois, c'est tellement grave qu'il s'arrête, il meurt. Le développement naturel, c'est un développement qui relève de la nature, le devenir. La vache, elle n'existe que dans le devenir. Le petit enfant, il y a quelque chose d'autre qui fait qu'il ne peut pas s'identifier au devenir. Et la vache, on l'adresse, l'enfant, on l'éduque. Et là, une grande différence. L'éducation regarde la finalité, le dressage. Il regarde aussi la finalité, mais la finalité de la nature reste entièrement déterminée par la nature. Alors que l'éducation, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Ceci pour qu'on comprenne bien la différence du problème de l'individuation du problème de la subsistance. La vache ne subsiste pas en elle-même. L'enfant subsiste. Et il y a une différence très grande entre les deux. Donc l'individu, c'est celui qui va se caractériser par sa quantité. Si je cherche d'où vient l'individuation, comment se fait l'individuation, qu'est-ce qui est à la racine de l'individuation, je vois tout de suite que c'est le corps. Je ne parle pas tellement de l'âme individuée, non. Je dis que l'âme, elle tend vers l'universel. Elle découvre vite l'universel. L'intelligence. Elle ne s'arrête pas à l'individu. Mais dans son développement matériel, dans son développement vital, elle est prisonnière de son individuation. Et c'est vrai, l'individuation à la fois me sépare des autres, me distingue à l'égard des autres. Mais en même temps, l'individuation, c'est moi. C'est pas l'autre. Je vis de mon individuation. Je vis de mon individuation, c'est-à-dire que je sais un individu et que je ne suis pas l'autre. Et que je suis séparé de l'autre. Je sais que l'autre pourra arriver à faire des choses que moi, tel individu, je ne peux pas les faire. Il y a un moment dans toute évolution, dans toute éducation, où l'on s'aperçoit que celui qui était tout près de nous, qui semblait l'égal, me dépasse par la taille. Il y en a un qui grandit plus, c'est l'autre qui grandit moins. C'est pas juste, ça. Il y a un qui reste toujours à cette taille-là et l'autre, il va grandir. C'est l'individuation, ça. Si gosse, il attache à la taille une importance plus grande, tous les gosses attachent à la taille une différence plus grande que l'individuation. On croit que parce qu'on est plus grand, on est plus intelligent. Non. Alors on dira, celui qui est petit, il a quelque chose de plus. C'est cette réflexion, je me souviens, en Afrique, de ce petit individu. Qui avait tué dans sa vie 20 éléphants. Et il m'exposait ça. Sa grandeur, il savait qu'il était petit, qu'il ne grandirait pas et qu'il serait plus petit que tous les autres. Mais il m'a dit alors, c'était très beau. Il a d'abord dit, j'ai tué 20 éléphants dans ma vie. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Des bêtes beaucoup plus grosses que lui. Individu, l'individu de l'éléphant, l'individu de ce petit qui était pas grand. Il y avait quelque chose. Et individu et personne. Quand il me disait que c'était l'intelligence, c'était plus l'individu. Il y avait en lui quelque chose qui dépassait, quelque chose de spirituel. Il ne savait pas très bien, mais il comprenait très bien que pouvoir tuer un éléphant, ça exigeait non pas de peser plus que lui, mais de pouvoir mener l'éléphant dans un endroit où il serait vaincu, anéanti. Et c'était beau de voir ça, de voir la différence entre l'individu et la personne. Et au point de départ, on confond individu et personne. On dit, il grandit plus que moi. Il va me dépasser. On peut grandir plus et ne pas grandir du côté de l'intelligence et de la volonté. Il y a cette distinction très importante de voir que l'individuation relève de la quantité. On a vu ce qu'était la quantité. comme manifestation de la substance. Toute manifestation se fait par la quantité. Tous. C'est pour ça que dans toutes les manifestations, on demande toujours le nombre. Il y avait combien de personnes? On ne demande pas, on demandera ensuite la qualité des personnes. Il y avait telle et telle personne importante. Mais c'est d'abord le nombre. Et c'est ça qu'on relate dans tout mouvement de masse, individu. Oui, ça s'additionne. Il faut réfléchir sur l'addition. Parce que ça fait comprendre ce que c'est que l'individu. Et ça fait comprendre que l'individu, alors dans son fondement, qu'est-ce qui permet d'individuer quelqu'un, de faire qu'il est autre que son voisin, qu'il est distinct de lui, et qui fait nombre avec lui, faire nombre. C'est très curieux de faire nombre, d'ajouter quelque chose qui est extrinsèque. Et c'est vrai que votre voisin soit plus grand que vous, que votre voisin pèse plus que vous, que votre voisin a des qualités corporelles qui sont nettement supérieures aux vôtres. Vous avez l'inégalité. L'individu est source de l'inégalité. Et source de similitudes quantitatives. Ce sont des similitudes dont on ne se vante pas tellement. Je pèse le même poids que cet homme qui pèse 110 kilos. Vous voyez, quand ça dépasse la moyenne, alors ça devient intéressant. Vous mesurez plus que 2 mètres. Alors, ça devient intéressant. Parce que c'est exceptionnel. Alors l'individu aime l'exception. Parce que l'individu va, par l'exception, se distinguer des autres. Vous voyez, être quelque chose qu'on ne peut plus additionner. C'est pour ça que l'individu est source d'addition. Alors, ça vient non pas de l'être, mais de la quantité. L'individuation provient de la quantité, du divisible. Je suis divisible par la quantité. Jamais une qualité me rend divisible. La qualité a quelque chose d'unique, d'indivisible. On ne peut pas nombrer les qualités. On le fait, mais on le fait par la quantité. C'est la quantité qui amène le nombre. Voyez comme c'est important pour comprendre l'origine des mathématiques. L'origine des mathématiques provient du domaine de la quantité. Ce n'est pas les qualités, non, c'est la quantité. C'est pouvoir additionner et soustraire. Pouvoir additionner et soustraire, c'est la quantité qui apporte le divisible. Et qui met le divisible jusque dans la substance. Par la quantité, mon âme, qui en elle-même est complètement indivisible, mon âme devient divisible. J'ai quelque chose de mon âme au bout de mon doigt. Je coupe mon doigt. Mon âme devient divisible. C'est très curieux, ce passage de l'être qualitatif, unique, au divisible. Alors vous avez là tout de suite des quantités de problèmes qui proviennent de ça. Vous avez ce problème d'une communauté. Si vous étiez tous indivisibles, il n'y aurait pas de communauté. Une communauté implique qu'on peut additionner, qu'on peut soustraire. On est plus ou moins nombreux. Et au fond, la quantité, à ce point de vue-là, vous voyez, va mettre mon être dans une situation très pénible. C'est que on peut compter le nombre de gens indépendamment de leur qualité. Et donc, c'est très humiliant l'individu, puisque je peux faire nombre, et je fais nombre comme individu, alors que je ne fais pas nombre par ma substance. Ma substance indivisible, elle est unique. Ma quantité n'est pas du tout unique. Je suis au contraire quelque chose qu'on peut ajouter, qu'on peut soustraire. On peut m'additionner avec un autre. Cet autre ne m'est pas du tout agréable. Au point de vue quantité, on s'additionne. Et on compte. C'est très humiliant, hein, pour la substance de s'individualiser. C'est-à-dire de tomber dans le fait qu'elle peut faire nombre avec quelqu'un d'autre. Et qu'elle fait nombre avec quelqu'un d'autre. Et qu'on est réduit alors, vous voyez, on est réduit à faire partie d'une communauté. L'individu fait partie d'une communauté. L'individu fait partie d'une communauté humaine. Et dans la communauté humaine, il a sa place. Mais dans la communauté humaine, et donc, il fait nombre. Faire nombre. Faire nombre, c'est très humiliant pour la substance. La substance ne fait jamais nombre. L'âme ne fait jamais nombre. On sent très bien ça. Si on est dans le communisme intégral, il ne faut surtout pas l'âme qui met au-dessus de l'individu. Il faut tout ramener aux individus. Et donc, on ne voit plus que la quantité. La quantité, si elle est la dernière des valeurs, permet une communauté intégrale, parfaite. Parce que c'est l'individu qui permet le nombre. J'additionne. Je perds quand on m'additionne avec mon voisin. Quand on a le nombre de gens qui sont sur la même ligne. Je perds complètement ce que je suis comme personne. Et je deviens uniquement un numéro. Il n'y a rien de plus pénible que d'être un numéro. Vous m'avez traité comme un numéro. C'est-à-dire, vous m'avez traité dans l'ensemble, comme faisant partie d'un ensemble. Mais moi, dans ma singularité, vous m'avez pas regardé. Oui, dans ma singularité, dans mon individualité, alors, à la fois l'individu est source d'altérité et source de communauté. Il y a les deux. Du fait même, comme individu, je suis à la fois unique. Personne ne peut me remplacer. Absolument personne ne peut me remplacer. Je suis un individu complètement, grâce à mon corps, personne ne peut me remplacer. Mais en même temps, comme individu, je fais nombre. Et le nombre passe avant l'individu. Le nombre humilie l'individu, puisque je vous compte. Et par rapport au nombre, ben, vous n'êtes qu'un individu. Donc vous êtes toujours saisi d'une façon commune, et ce qu'il y a de spécial en vous et d'unique en vous, de personnel, disparaît. Et ça peut aller très loin. Parce que l'individu, c'est quand même la première chose que je saisis. Le point de vue personnel, je saisis petit à petit. Mais le point de vue individu, je le saisis tout de suite. Quand on demande au Père Maître s'il a beaucoup de novices, quand ils viennent les recevoir, ils diront oui, il y en a. Et on lui dira, ah, il regardera l'âge, il regardera le poids, il regardera la quantité. Et s'il y en a un qui dépasse beaucoup les autres comme grandeur, ça se voit tout de suite. S'il dépasse beaucoup les autres par le poids, ça se voit tout de suite. Qu'il soit plus intelligent, je n'en sais rien. Vous voyez comme c'est curieux l'individu. Comme l'individuation joue un rôle extraordinairement important au niveau d'une connaissance globale, universelle. C'est par rapport à l'universel que l'individu se distingue tout de suite. L'universel saisit quelque chose de l'individu, mais ne saisit pas tout. Et donc l'individu, comme tel, sentira toujours une humiliation profonde d'être uniquement un nombre qu'on additionne. C'est révoltant pour la personne. Être quelque chose qu'on peut additionner. Et en tant qu'individu, c'est normal, à cause de la quantité. Parce qu'à cause de la quantité, on est divisible. Je crois que c'est très important de saisir ça. Parce que des quantités de choses, surtout au point de vue politique, au point de vue familial, on a tous senti ce qu'on était comme numéro, si la famille était pas nombreuse, si la famille n'est pas nombreuse aussi, tout de suite. On a senti combien on était relativisé. Alors la quantité va être source de relativisation, d'être considéré par rapport à un ensemble. On fait partie de cet ensemble, mais on n'est pas l'ensemble. Et l'ensemble vaut plus que la partie, toujours. Et donc, ça vous humilie, ça vous met dans un état d'infériorité, parce que vous êtes uniquement, vous faites partie d'un nombre. Et ça, c'est l'individu, c'est votre quantité. La quantité joue ce rôle très particulier d'invisibilité, de me séparer des autres, de me tenir isolé ou de me tenir entièrement relatif. Il y aura les deux. Et je serai constamment ballotté entre les deux. Et l'enfant dans la famille est constamment ballotté entre les deux. Sauf quand il était l'aîné. Alors quand il était l'aîné, il était unique. Et donc l'individuation a joué beaucoup moins à l'intérieur de la famille. Elle a joué dès qu'on quittait la famille, la classe. C'est pour ça qu'il y a toujours eu une difficulté de quitter la famille et d'aller en classe. Parce qu'au fond, là, c'était le nombre. Et je faisais l'expérience première de mon individualité, séparée des autres et faisant nombre. Et donc là, un problème fondamental qui joue énormément au plan psychologique. Prendre conscience d'une façon parfaite de son individualité, de tout ce qui me sépare des autres, tout ce qui m'isole, tout ce qui me permet au contraire d'être en relation. L'individu joue les deux rôles. L'individu peut m'isoler complètement. L'individu peut me fusionner entièrement. Et les deux extrêmes, ce sera fusionner et isoler.